l'expression prophète de malheur vient de ces prophètes. Personne n'aime passer du temps avec un prophète de malheur. Et nous allons passer du temps avec ces prophètes. En plus, aujourd'hui, prophète de malheur, ça fait penser à quelqu'un de bizarre avec une pancarte dans la rue. La fin est proche. On associe cette démarche souvent aux sectes qui essaient de faire peur. On se méfie de ce ton alarmiste. Sauf, bien sûr, si cela vient des écologistes qui parlent du réchauffement climatique. Là, on veut bien être alarmiste et croire que la fin est proche. Mais si ça vient des religions, on est plutôt méfiant. Mais ces prophètes de malheur de la Bible, on aurait pu aussi les appeler les prophètes du bonheur, puisqu'ils n'ont pas cessé d'indiquer la voie du bonheur pour le peuple d'Israël. C'était visiblement leur souci de leur éviter les malheurs et de leur conduire dans une voie de bonheur, une voie de la vie. Alors même s'ils ont beaucoup parlé d'un jugement imminent, ils ont aussi donné de belles promesses d'un monde meilleur, et nous voulons aussi découvrir ces beaux passages qui se trouvent dans ces prophètes. En plus, ces prophètes, ces petits prophètes, à la différence de ce qu'on imagine souvent des prophètes de malheur, c'est que leur message s'adressait à leur propre peuple. C'est-à-dire que c'était plutôt un malheur à nous qu'un message malheur à vous. C'est vrai que les religions aiment bien souhaiter le malheur aux autres, les mécréants, les infidèles, les gens des autres religions. Mais en fait, ces livres, ces petits prophètes, c'est plutôt de l'autocritique. C'est plutôt un avertissement vers le peuple de Dieu. C'est vrai que parfois, ils ont visé les autres nations pour encourager la nation d'Israël, mais leur message visait le peuple de Dieu, qui était devenu infidèle, qui avait oublié Dieu. Et c'est ça qui est fort, puisque si des hommes ont inventé la Bible, ou si ce sont des hommes qui ont choisi le contenu, comme on aime bien dire de nos jours, eh bien, ils n'auraient jamais inclus ces livres, puisque le portrait, l'image que cela donne du peuple de Dieu, d'Israël, est une mauvaise image. Quand vous postez une image de vous sur Facebook, vous ne mettez pas la pire, la moins glorieuse. Vous choisissez une qui vous convient. Mais la Bible ne fonctionne pas comme ça. Même si c'est un message dur, eh bien, cela apporte une authenticité à la Bible qu'on ne trouve pas ailleurs, puisqu'on a un regard cru, un regard franc sur le peuple de Dieu. Donc ces livres, ce serait plutôt l'autocritique que simplement dénoncer les autres. Alors, pour mieux comprendre le message de ces hommes, ça peut aider de les classer dans plusieurs catégories, tous ces... Alors, il y en a à peu près 12 petits prophètes. Et ils ont parlé, ils ont eu un ministère dans des époques différentes, des circonstances un peu différentes. Ils étaient envoyés vers différents destinataires. Alors, on s'attend à ce que les prophètes pré-exil avaient un message plutôt d'avertissement et de jugement, et les prophètes post-exil avaient un message plutôt d'encouragement, même si on trouve et l'avertissement et l'encouragement chez les deux. Certains ont parlé dans des temps de grande instabilité, des crises politiques, des crises économiques où le pays était bouleversé, et donc le prophète venait pour parler au peuple, profiter de la crise, pour avoir une écoute. D'autres ont parlé dans des temps de prospérité, de sécurité, de stabilité, pour avertir. Certains ont été envoyés vraiment vers la nation d'Israël. D'autres ont été envoyés vers d'autres nations, comme par exemple Jonas qui était envoyé à Ninive. Et puis, parmi ceux qui ont été envoyés à la nation d'Israël, certains avaient un ministère plutôt vers le royaume du Nord, avec sa capitale à Samarie. D'autres avaient un ministère vers le royaume du Sud, avec sa capitale à Jérusalem. Le royaume du Nord était encore plus loin dans le péché, dans l'idolâtrie. Et donc, ces messages pouvaient être encore plus forts pour dénoncer le mal. Alors, ce matin, nous allons étudier le livre d'Amos. Et juste pour situer Amos, vous l'avez là, Amos, c'était un prophète pré-exil. Il a prophétisé dans un temps de grande prospérité pour la nation d'Israël. Il a été envoyé vers Israël. Il commence en dénonçant les autres nations, et on peut s'attendre à ce que les Israélites étaient tout contents qu'il dénonce les autres nations. Mais le plus gros de son livre, chapitre 2 à 9, parle d'Israël plutôt. Donc, il avait un message surtout pour le peuple de Dieu. Et puis, il a parlé et au nord et au sud, mais avec un accent au nord du pays. Donc, quand nous allons survoler ce matin le prophète Amos, vous pouvez le situer un peu ainsi parmi les petits prophètes. Alors, ce matin, nous allons lire un passage dans Amos. Alors, il n'y a aucune honte à chercher dans la table de matière de votre Bible le numéro de page, parce que c'est vrai que parfois on connaît moins l'emplacement de ces livres. Mais nous allons lire un passage dans Amos chapitre 5. Les versets 11 à 24, je trouve que ce passage capte bien l'ensemble du message d'Amos. Alors, si vous y êtes, Amos chapitre 5, versets 11 à 24. Aussi, parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les places où on se lamentera, dans toutes les rues, on dira « Hélas, hélas !» On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui se disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes, des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Voilà un bon échantillon du message d'Amos. Alors nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec un message qui remonte presque 30 siècles? Comment appliquer ça à nos vies, à notre monde? Bien, pour commencer, j'aimerais dire que Martin Luther King a fait de ses paroles, notamment les paroles de verset 24 que nous venons de lire, il a fait de ses paroles son message pour le monde dans lequel il vivait, en voyant les grandes injustices autour de lui. C'était son appel, que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. On trouve il a repris ses paroles dans ses discours et ses lettres. C'était son grand appel lorsqu'il a combattu pour les droits civiques dans les années 60. Donc, c'est juste pour dire qu'Amos, un message comme le message d'Amos, est toujours d'actualité dans un monde contemporain. Et ce que Amos veut voir dans la société, c'est ces torrents de justice. Nous aimons bien chanter, parler des torrents d'amour. Le souci d'Amos était des torrents de justice. Et des justices dans le cœur des hommes, et puis une justice dans la société. Alors, c'est ce qu'il veut voir, et il appelle le peuple à revenir, à se repentir. Il veut qu'il y ait des torrents de justice, sinon ça va être le tourbillon de la justice de Dieu, notamment, qui punit toute injustice. Alors pour survoler, pour résumer le message d'Amos, on verra ce matin qu'il dénonce deux grands torts, deux grands péchés qu'il voit dans le pays, la justice corrompue et ensuite le culte corrompu. Ensuite, il annonce un jour de jugement et puis la période de la restauration. Nous commençons avec ce qu'il dénonce en premier et qui revient souvent dans ces chapitres, c'est la justice corrompue. Amos, comme indiquent les premiers versets du livre, il a prophétisé pendant le règne d'un certain Jéroboam, le deuxième Jéroboam, Jéroboam II. Et d'après les historiens, on sait que c'était un temps de prospérité, un temps de stabilité, de sécurité, de tranquillité dans le pays. Les ennemis se tenaient au calme. Et donc le pays était tranquille, il pouvait bâtir des maisons en pierre, avoir d'excellentes vignes, comme il dit. Tout va très bien, madame la marquise. Eh bien non, comme il dit, chapitre 6, verset 1, « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. » En fait, tout n'allait pas bien. Parce que à cette époque, il y avait un manque cruel de justice sociale, notamment envers les plus vulnérables de la société. Et ça, on voit qu'il dénonce ça dans les versets que nous avons lus, verset 11. « Vous avez foulé le misérable, vous avez pris de lui du blé en présent. » Verset 12. « Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, vous violez à la porte le droit des pauvres. » En fait, il parle de la porte. Et à l'époque, à la porte de la ville, c'était là où étaient traitées les affaires. C'est là où les gens venaient avec une cause, un procès, une question de justice. Et donc, ils venaient devant les anciens de la ville. Il y avait là, à la porte de la ville, qu'on dispensait une justice pour les habitants. Mais Amos dénonce que vous violer à la porte le droit des pauvres. Et encore en verset 15, donc il dit « Faites régner à la porte la justice ». Donc Amos, il appelle à cette justice, bien sûr c'est une justice et une droiture individuelle, mais aussi au niveau de la société, au niveau de l'administration. Et c'est justement la société, une justice sociale. C'est l'idée de protéger les plus vulnérables de la société. Dieu n'est pas contre la prospérité ou la richesse, mais il est contre l'exploitation des pauvres, ou que lorsque les forts, les riches, bénéficient de leur position pour priver les pauvres et les plus vulnérables d'une justice, d'une droiture, d'une protection. Et la triste réalité de ce monde, c'est que si vous n'avez pas beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, les chances que vous obtiendrez justice pour votre cause sont grandement réduite. Et ce que nous apprenons souvent dans les écrits de l'Ancien Testament, notamment qu'un grand problème pour les pauvres de ce monde, ce n'est pas tant qu'ils manquent d'argent, mais il leur manque de justice, il leur manque quelqu'un pour les défendre, pour défendre leur cause. Alors c'est vrai qu'il y a eu des réformes et des prises de conscience en Occident, et on peut être reconnaissant pour déjà le système de justice que nous avons, mais le message de Amos reste de grande actualité pour notre monde et notre société. Quand on voit les grandes injustices qui existent encore, la manière que les pauvres les plus vulnérables de la société sont exploités, aujourd'hui le trafic humain, l'esclavage sexuel ne cesse de croître, ça reste de grands fléaux pour montrer la méchanceté de ce monde. Et cela touche de plein fouet l'Occident. Ce n'est pas que l'Occident est protégé de ces choses, mais l'Occident est le moteur de beaucoup de ces choses. Alors face à une telle corruption, on ne peut que espérer qu'un jour il y a une justice de Dieu qui voit tout ça. Si on ne peut pas croire à la justice de Dieu, au jugement de Dieu, face à une telle corruption, la vie n'a vraiment pas de sens. Donc heureusement, il y a un Dieu qui voit tout ça, qui prend à cœur les pauvres, les misérables. Bon, il y a des grands fléaux, une grande corruption, mais il existe de nombreuses pratiques encore dans notre société, à notre époque, qui sont tout sauf droit et juste. Et cela, quelle que soit la partie politique, en pouvoir, à leur discours. J'ai lu récemment une phrase qui m'a arrêté. Un évêque allemand du 6e siècle aurait dit ceci. Les pauvres sont un mine d'or. Quand j'ai lu ça, ça m'a surpris. Les pauvres sont un mine d'or. Mais en réfléchissant, malheureusement, c'est bien vrai. D'ailleurs, pensez à Judas, le traître parmi les disciples. Lui voulait s'occuper des pauvres. Pourquoi voulait-il s'occuper des pauvres ? Pour s'enrichir lui. Et on a souvent exploité les pauvres, les riches ont exploité les pauvres pour s'enrichir. À l'époque médiévale, il y avait la vente des indulgences. On exploitait la superstition et l'ignorance des classes pauvres pour renflouer les caisses de l'Église. Vous achetez un petit papier et avec un peu de chance, vous gagnez le paradis. Est-ce que vous ne connaissez pas un système aujourd'hui qui fonctionne pareil ? Vous achetez un petit bout de papier et avec un peu de chance, vous gagnez le paradis. Mais en fait, qui gagne le super cagnotte chaque fois ? C'est l'État. Tout le monde sait que le loto et les jeux d'argent, c'est un impôt sur les plus pauvres de la société. J'aimerais parler d'une autre population faible et vulnérable, à laquelle on n'en pense pas beaucoup. Ce sont les bébés dans le ventre. L'utérus occidental est l'un des endroits les plus dangereux de la planète. À en croire les statistiques. En France, en 2012, 3380 accidents mortels de la route. 2012, en France, 3380 accidents mortels de la route, 220 000 avortements. Où est l'endroit le plus sûr ? La route ou le sein maternel, qui est censé être un lieu de protection. Et donc, vous voyez, Amos, il s'en prend à cette... À la société. Dans souvent de ces problèmes, ce n'est pas tant un individu qui a un problème, pas forcément culpabiliser telle ou telle personne, mais c'est un ensemble du système qui fonctionne mal, et parfois, c'est même difficile pour une personne d'élever sa voix et dire non, ce n'est pas bon, parce que le système est tellement fait comme ça, et je pense que c'est pour ça qu'il dit... Voilà pourquoi, en des temps comme celui-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Parfois, on ne sait pas quoi dire, vous ne savez pas comment répondre à un tel système d'injustice. Et, on a l'impression que la seule chose à faire, parfois, c'est de se taire. Amos comprend ça. Selon Amos, la justice sociale inclut la moralité sexuelle. Je peux vous montrer ça maintenant. En chapitre 2, versets 6 à 7. Chapitre 2, versets 6 à 7. Un peu le même discours. Ainsi par l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt. C'est une expression hébraïque. À cause de 3, même de 4. C'est pour parler de beaucoup, de l'ensemble. Un peu comme nous, on dit jamais 2 sans 3. Ou une expression comme ça, on le retrouve souvent dans la poésie hébraïque. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le père, le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Donc là, dans la liste de plusieurs choses, plusieurs injustices, il y a les injustices sociales, il y a aussi la promiscuité qui battait son plein à son époque comme la nôtre. Et là, c'est quelque chose que notre époque a complètement divorcé, la justice sociale et la moralité en ce qui concerne les mœurs sexuelles. Mais il ne faut pas être prophète pour savoir qu'ils sont étroitement liés. Une société qui pousse à la déstigmatisation des relations en dehors du mariage, à la facilité du divorce, à la désintégration de la famille, au rejet des rôles de l'homme et de la femme, c'est une société qui veut créer plus de pauvres et plus de misérables. On se demande pourquoi on continue ainsi, mais trop souvent, c'est ceux-là qui font tourner la boutique et on ferme les yeux sur les conséquences et les injustices que cela crée. Donc Amos, partout dans son livre, Vous pouvez le lire pour vous-même, vous voyez qu'il dénonce une justice corrompue, une justice sociale corrompue. Malgré une grande prospérité, une tranquillité dans la nation, cette prospérité malheureusement était souvent sur le dos des pauvres. Ensuite, il dénonce aussi un culte corrompu. On trouve cela aussi dans son discours. Il va plus loin, si on revient au chapitre 5, notre texte, il dénonçait une justice corrompue, mais il continue. En versets 21 et 23, vous avez vu ça, il dénonce le culte qu'il offrait. Dieu dit, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes, je n'y prends aucun plaisir, les veaux engraissés, que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne-moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Israël, ils avaient eu un passé religieux, où ils avaient connu le culte, le vrai culte à l'Éternel, mais à ce moment, il ne restait que la forme. La forme y était, mais il n'y avait pas le fond. Et encore, la forme était corrompue, surtout dans le royaume du Nord, parce qu'ils avaient remplacé le temple à Jérusalem avec le propre haut lieu, les veaux d'or, de l'idolâtrie. Et Amos dénonce tout ça, ce culte corrompu. C'est vrai que les religions ont tendance de pousser vers ça, une hypocrisie, une carapace religieuse, mais il n'y a pas une vraie transformation de vie derrière. Et c'est ce que Dieu ne supporte pas. Lui, il dit, vous faites toutes ces cultes et ces cérémonies, mais il n'y a pas la droiture et la justice dans votre vie. Alors, je hais tout ça. Pour revenir à chapitre 2 encore, où il vise Judas cette fois-ci, chapitre 2, verset 4, dans la même formule. À cause de 3 crimes de Judas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères que leur père avait adorées. Donc, à la fois, il dénonce une justice corrompue, mais aussi un culte corrompu, puisqu'il parle des idoles mensongères. Ils ont méprisé la loi et les ordonnances de l'Éternel. Et ça, c'est intéressant de remarquer ça de la part d'Amos, puisqu'on apprend que les problèmes sociétaux reviennent à des problèmes aussi d'adoration, des problèmes d'idolâtrie. Si une société fait de l'argent son seigneur, son sauveur, son idole, alors forcément elle va exploiter, elle va tricher, elle va voler, elle va mépriser le pauvre. Pour devenir une société juste, généreuse, droite, il faut adorer un Dieu généreux, juste et droit. Et il n'y a qu'un Dieu comme ça. Les idoles, les dieux des autres nations, c'était des dieux violents, des dieux capricieux. Ils n'étaient pas généreux, droits, saints et justes. Et ils avaient remplacé ce Dieu-là pour d'autres dieux, des idoles, et forcément, ça conduisait à certains comportements. Et c'est là où Amos apporte un regard unique, un message unique. Vous avez des gens, encore aujourd'hui, qui se soucient de la justice sociale, qui sont branchés sur ces questions-là, même des milieux chrétiens, parfois protestants, qui veulent la justice sociale. Mais ces milieux-là, rarement, ils sont aussi intéressés par une fidélité à la Bible, au culte, revenir à vivre, à respecter ce que Dieu a dit, avoir un culte qui l'honore. Et puis vous avez des milieux qui sont très attachés à la Bible, au culte, à la fidélité doctrinale, mais parfois eux s'intéressent moins aux questions de la société, la justice. Donc Amos, il fait quelque chose d'unique en mettant les deux sur le même plan et en disant que voilà, vivre avec Dieu, honorer Dieu, c'est préserver le culte qu'il nous a donné, et aussi se laisser transformer par ce culte, cette adoration, une vie juste et droite. Je ne vais pas m'attarder plus sur le culte corrompu, puisque tous les prophètes, tous les petits prophètes dénoncent l'idolâtrie, la corruption du culte en Israël. On aura l'occasion de voir ça un peu plus, mais C'est le péché principal qu'on trouve dans l'Ancien Testament, que les prophètes ont toujours dénoncé, et on peut s'imaginer que c'est aussi le péché principal de notre époque, de nos cœurs, cette idolâtrie, ce culte dévié, corrompu, et toute solution commence à retrouver le vrai culte, la vraie adoration. Jésus avait dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste viendra ». Le monde d'Amos et le nôtre, c'est un monde qui cherche d'abord l'argent et le confort personnel et la sensualité. Alors forcément, le reste ne va pas venir. Donc pour remédier au problème, il faut chercher d'abord Dieu, sa parole, sa louange, et le reste viendra. Amos donc dénonce cette justice corrompue, ce culte corrompu, et puis il annonce un jour de jugement. Et on voit ça, si on revient à notre texte en chapitre 5, on voit ça dans les versets 16 à 20. Une grande lamentation. Hélas, le Seigneur va passer au milieu d'eux et détruire, juger, châtier. Et puis on trouve dans le verset 18, grande expression des prophètes, le jour de l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Alors Amos, il parle de ce jour de l'Éternel, jour de jugement. Lui, il parlait du jour où l'armée assyrienne allait venir et mettre fin au royaume du Nord. Après toute cette désobéissance, ce rejet de Dieu, Dieu a fini par juger. C'était en l'an 722 avant Jésus-Christ. Et effectivement, ils ont vécu des choses dramatiques. Et le royaume du Nord a été éradiqué, jugé. Amos annonce ce jour de plusieurs façons saisissantes. On peut voir plusieurs de ces passages. Encore dans notre survol de ce livre, en chapitre 3. C'est peut-être des passages que vous avez lus qui vous êtes restés dans l'esprit. En chapitre 3, il y a une série de questions intéressante, des circonstances qui sont liées. Si telle chose se passe, il y a parce qu'une autre chose s'est passée. Alors, en chapitre 3, verset 3, par exemple, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Si vous voyez moi et Vincent assis à côté dans un TGV en allant vers Lyon, vous savez que probablement on a programmé ça. Il y a une raison. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? On sait que quand il y a un rugissement, c'est que le lion a attrapé sa proie. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Donc il y a des circonstances qui sont liées. Une chose arrive parce que l'autre chose s'est produite. Alors, toutes ces images, c'est pour tirer une conclusion où Dieu dit, voilà, j'ai dit à mes prophètes ce qui vont arriver, alors là, la conclusion logique, la suite inévitable, c'est que la chose va se produire. Verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc il dit à ses prophètes ce qui va arriver et la circonstance inévitable serait la chose qui arrive, notamment le jugement. Cela rappelle que personne ne dira quand le jugement tombe, on n'était pas au courant. On est au courant, ils étaient au courant, et je pense que notre monde aussi est au courant qu'il y a un jugement, qu'il faut un jugement. On voit que dans notre conscience collective, quand on regarde tout ce qui sort en cinéma sur la fin du monde, sur les jugements cataclysmiques qui frappent le monde entier, il semble qu'on a une conscience collective qu'il y a quelque chose, qu'il y aura un dernier jugement. Personne ne dirait, on n'était pas au courant, Dieu a averti de maintes manières les hommes. Ou bien en chapitre 4, encore une manière d'avertir les gens, d'annoncer ce jour de jugement. Cette fois-ci, là, en chapitre 3, c'est une série de questions. En chapitre 4, il y a une série de réflexions. Entre les versets 7 et 13, et la série de réflexions, c'est Dieu qui dit, voilà, je vous ai envoyé la famine pour vous secouer, pour vous ramener à moi, vous n'êtes pas revenu. Je vous ai envoyé la peste, vous n'êtes pas revenu. Je vous ai envoyé la rouille, vous n'êtes pas revenu. Alors, tous ces avertissements, alors il termine en disant, verset 12, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Israël. » Vous connaissez peut-être ce verset 4-12. C'est à la fin de cette série de réflexions. Je vous ai averti. Je vous ai envoyé des épreuves. Je vous ai envoyé des prophètes. Vous n'avez pas écouté tout ça. Alors, maintenant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et dans ce contexte, la rencontre, ce n'est pas une heureuse rencontre. Ça va mal se passer puisqu'ils ont refusé d'écouter les avertissements. Donc ça fait voilà, quelques passages où Amos, de manière saisissante, imagée, évoque le jour de l'Éternel, qui est arrivé de manière imminente. Il a prophétisé environ 30 ans, 40 ans, une génération avant que les Assyriens viennent détruire le royaume du Nord. Donc, voilà, c'est ce qu'il disait, c'est vraiment est arrivé. Mais les prophètes qui ont succédé, et puis encore dans le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament, ils ont repris cette expression, le jour de l'Éternel, cette phrase, pour en faire un grand thème biblique. Le jour de l'Éternel, ça va bien au-delà de simplement l'armée assyrienne qui est arrivée en Israël. Le jour de l'Éternel, c'est ce jour, c'est pas un jour de 24 heures, c'est ce moment où Dieu va enfin dispenser justice pour le monde entier. C'est le moment où Dieu demande l'addition et puis il règle toutes les injustices qui ont pu exister et il se montre le juste juge de l'univers. Et on a une réflexion, un avertissement que Amos nous donne aussi, verset 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. » Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Amos avait vu qu'il y avait une mauvaise attitude en Israël à cette époque, parce qu'il disait, oui, ce serait super que le jugement tombe, parce que le jugement, ce serait sur les autres, le jugement, ce serait les païens, les nations alentours. Nous, on bénéficie d'un statut privilégié, nous, on est Israël, donc pas de problème pour nous. Et il leur dit, non, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel, parce que Israël, ils croyaient avoir un statut privilégié, mais du coup, puisqu'ils ont abandonné la parole de Dieu, ils étaient encore plus coupables. Donc, ils ne pouvaient pas se dire Dieu va juger les autres, mais il va faire exception pour nous. C'est pas comme ça que marche la justice. La justice est juste. Et même pour nous, il y a parfois une tension, un équilibre à garder. Quand on pense à ce jugement, le jugement de Dieu. Et c'est une tension qu'il faut résoudre. À la fois, on veut qu'il y ait une justice pour tout le monde. On veut que tous les torts soient réparés, tous les péchés condamnés. Mais en même temps, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est difficile à souhaiter que la justice de Dieu se déverse sur toute la terre. Parce que, où est-ce que ça nous laisse? Alors, on désire le jugement, la justice, mais on le désire pas non plus, parce qu'on sait que ça a des implications pour nous. Alors, comment résoudre cette tension et comment espérer une bonne nouvelle? Et c'est là où Amos aussi veut encourager le peuple. Il annonce une période de la restauration. C'est surtout la fin, chapitre 9. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruisselera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Il me semble que les versets 14 et 15 là sont inscrits sur la salle de l'Assemblée nationale en Israël. Et c'est vrai, c'est difficile de ne pas voir les événements récents comme un accomplissement partiel, en tout cas, de ces belles promesses d'Amos, ce retour au pays. Mais la portée de ces versets va plus loin que ça, et nous concerne nous ce matin, puisque le Nouveau Testament va citer et expliquer ces versets pour nous. C'est en Actes chapitre 15. Il y a Jacques, c'est le responsable de la première église chrétienne à Jérusalem. C'était un moment où il se posait des questions parce qu'il y avait des juifs qui revenaient à Dieu, mais après il y avait des païens, des nations, des gens, des non-juifs qui se convertissaient, qui croyaient à l'évangile et ils ne savaient pas trop comprendre ce qui se passait. Alors Jacques, pour expliquer, pour donner du sens à ce qui vivait, ces premiers chrétiens, il cite ces versets d'Amos. En Actes chapitre 15, il cite ces versets d'Amos et il dit à ses frères, il dit en fait, nous sommes en train de vivre ce qu'avaient annoncé les prophètes, nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui maintenant en voyant les nations venir à Jésus-Christ. Et les nations qui viennent à Jésus-Christ, c'est parce que c'était possible, parce que Dieu a relevé la maison de David. Et qu'est-ce qu'il a fait pour relever la maison de David, pour relever de ses ruines? Eh bien, il l'a fait par Jésus-Christ. Jésus-Christ, par son œuvre, a permis de restaurer les ruines et commencer cette période de la restauration où, comme nous avons vu pendant la présidence, Dieu est en train de construire un nouveau temple, une nouvelle maison qui est l'Église, qui nous, vous et moi, des gens venant de toute nation qui peuvent invoquer le nom de Dieu. Dieu a relevé de sa chute la maison de David en ressuscitant son fils Jésus. Et c'est par Jésus que Dieu a pu surtout exercer le jugement tout en nous épargnant le jugement. C'est par Jésus-Christ que Dieu a déversé les torrents de sa justice pour que ça tombe sur lui et pas sur nous, pour que nous ayons, nous, les torrents d'amour. Alors, selon Jacques, Amos, il parle de Jésus ici, il parle de nous lorsque nous comprenons le message de la croix et que nous venons à Jésus, le fils de David. Cela fait partie des ruines qui sont rebâties, qui sont reconstruites. Et puis il rebâtit les ruines de notre vie, de notre vie souvent dissoute, injuste, de péché. Là, Dieu restaure et chacun peut vivre un temps de restauration en Jésus-Christ, puisque le jugement tombe, non pas sur nous, mais sur Jésus-Christ. Alors vous voyez, les appeler des prophètes de malheur, ce n'est pas tout à fait juste. C'est vrai, ils ont averti le peuple d'Israël avec un ton dur. Encore aujourd'hui, leur message rappelle le jugement final qui vient, pour lequel il faut être prêt. Mais depuis la venue de Jésus-Christ, depuis que le tourbillon de la justice de Dieu est tombée sur Jésus-Christ, et bien depuis ce moment, nous annonçons surtout un message de paix, pas un message de peur, mais un message de paix. Et encore aujourd'hui, les églises, les évangélistes, les pasteurs suivent plutôt le message des apôtres que le message des prophètes de l'Ancien Testament. Il y a un temps pour avertir, mais le ton principal du Nouveau Testament, c'est un ton de bonnes nouvelles, un ton évangélique, pas un ton de mauvaises nouvelles, puisque Jésus a accompli notre salut et nous pouvons nous réfugier en lui pour échapper au jugement de Dieu. Donc, l'appel encore aujourd'hui, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, mais pour nous, ce ne serait pas une mauvaise rencontre. On peut être prêt, couvert de la justice de Jésus-Christ, et cette rencontre se passera bien. Et quand Jésus vit en nous, sa justice jaillit de nous et dans notre entourage pour qu'eux aussi découvrent cette justice, cette droiture qui peut encore faire du bien à notre société. Prions pour terminer. Seigneur, merci pour ce message d'Amos, petit prophète, mais un grand appel, un grand message qui peut encore retentir dans notre société. Tu as utilisé ces paroles pour encore transformer la justice des hommes. Nous savons que tu veux encore aussi transformer nos cœurs et nous aider, nous les chrétiens, à être une source de justice dans notre monde autour de nous. Nous te prions de nous aider à vivre ces principes. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui a pris sur lui le jugement, qui est entré dans le tourbillon de ta colère, que nous soyons mis en sécurité, que nous puissions être comme dans l'œil du cyclone et échapper à tout ça. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à avoir peur. Nous pouvons te rencontrer avec joie, avec assurance, et nous te remercions. Bénis cette assemblée ici ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.